marine.
Vivre et travailler sur la mer et le littoral.
Un projet étudiant porté par Radio Mu. Gabriel Bonnefoy.
Gabriel Bonnefoy, j'ai 22 ans, je viens de Normandie et je suis actuellement en master 2 expertise et gestion de l'environnement littoral à Brest. Et je suis un pêcheur passionné depuis plus de 10 ans maintenant.
Bonjour Gabriel, on t'a rejoint à l'extrémité ouest de la presqu'île de Plougastel, à la pointe de l'Armorique plus précisément. On s'est garé en face d'une zone militaire et on a descendu un petit sentier qui nous amène sur une grève de galets. À l'ouest, on peut observer l'île Longue, également l'île Ronde en face. En face de nous, au sud, il y a la presqu'île de Roscanvel. Et dans notre champ de vision, on a également les deux ducs d'Albe, qui sont deux gros blocs de béton, d'ailleurs où un célèbre phoque, Serge, y habite. Et plus loin, on peut voir la forêt de Landévennec. Est-ce que tu peux nous décrire le paysage dans lequel on se trouve et en quoi est-ce qu'il se rapporte à ta vie, à ta passion ?
Donc là, on est en plein cœur de la rade de Brest, au niveau de la pointe de l'Armorique, sur la commune de Plougastel, et c'est ici que toutes les pêches estivales se font en rade de Brest. Donc principalement les pêches des sparidés, donc les dorades, que ce soit royales, grises ou les pagres, mais aussi le bar au lever du jour. C'est une zone aussi que j'affectionne particulièrement pour la chasse sous-marine, que je pratique aussi, notamment donc, pour la coquille Saint-Jacques en hiver, et bien sûr les autres poissons, donc, comme la dorade qui est le poisson roi de la rade pour le chasseur. Et aussi on peut apercevoir donc, sur la droite le goulet de Brest, donc, où là sont plutôt les pêches en bateau, donc plus profondes, plutôt sur le pagre, donc une espèce très intéressante à pêcher, et au loin là-bas où est sans pour les plus avertis pour aller pêcher les gros lieux.
Et là tu peux espérer choper quoi en faisant ça?
Là c'est du bar. J'ai vu la taille du leurre, il n'y a que du bar. Non, non.
Ok, bah, cette saison il n'y en a pas non?
Non. Ouais, cette saison, ici, là, je pense que... En tout cas, au leurre, je pense que tu peux rien choper. C'est quand même sur une plage. On est dans le fond de la rade de Brest. Donc, il n'y a plus d'alvin, il n'y a plus grand-chose.
Ouais, tu prends moyen, quoi.
Ouais, l'eau est froide, en plus.
Donc là, tu es en train de pêcher, tu es venu avec ton matériel. Est-ce que tu peux nous décrire cette canne et puis éventuellement le matériel que tu utilises par ailleurs ?
Oui, donc là, je suis venu avec une canne un peu passe-partout, donc une canne à pêche de 2 mètres de long avec un moulinet et une tresse pour pouvoir lancer à peu près tous les types de leurres qu'on utilise.
Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que c'est un leurre ?
Ouais, donc un leurre, c'est un bout de plastique grossièrement qui imite un poisson, et le pêcheur va venir l'animer pour lui donner de la vie et attirer le poisson pour qu'il morde. Donc il y a différents types, on peut pêcher donc de la surface avec des leurres flottants jusqu'au fond avec des gros leurres souples, donc avec un corps en plastique souple et une tête plombée de différents poids. Et donc en plus de ce matériel-là, il y a un matériel plus adapté à la pêche du bord aux appâts. Donc notamment pour pêcher dans les estuaires ou ce type de substrat. Et on va être plus sur des cannes de 4 mètres de long avec un plus gros moulinet, plus de fil pour pouvoir lancer loin des montages composés d'hameçons et d'appâts diverses pour pouvoir viser les dorades notamment.
Donc ton activité de pêche est diversifiée. Tu pratiques à la fois la chasse sous-marine en apnée et les différentes techniques de pêche à la ligne dont tu viens de nous parler. Quelles sont les différentes spécificités de chacune de ces techniques ?
Bon, d'abord, on va continuer sur la pêche à la canne. La spécificité, c'est qu'on va déjà viser des poissons qui sont actifs, qui sont en phase de nutrition. Donc on va viser les zones à fort courant principalement, ou les zones de nourricerie. Donc ça peut être le bord, là où il y a des recoupements d'alvin. Et on va essayer de viser ces poissons avec différentes techniques que j'ai explicitées juste avant. Et la différence avec la chasse sous-marine, c'est que donc là déjà on est nous-mêmes dans l'élément et on va essayer de trouver les poissons, pas forcément actifs. Donc soit on peut se mettre sur certains postes où il y a du courant, des poissons actifs, mais on peut aussi chercher des poissons en dormance, notamment le bar sur des zones de faible profondeur avec des algues l'été, qui vont dormir, se reposer au soleil. Et aussi la chasse marine est complémentaire parce qu'on peut toucher d'autres espèces comme les crustacés, donc les homards et les crabes, etc., qu'on ne peut pas toucher à la ligne.
Donc les espèces sont dépendantes de leur environnement, à la fois physico-chimique, donc la température, la salinité, les courants, et biologique, donc la coexistence avec d'autres espèces animales, végétales. En partant de l'écologie, est-ce que tu peux nous dire comment choisir un bon endroit de pêche ?
Ouais, donc c'est un peu comme j'ai dit précédemment, donc les espèces elles sont inféodées à un substrat souvent. Donc par exemple les sparidés, donc les dorades, ils vont être plus sur des fonds sablo-rocheux, donc on va viser les couloirs de sable entre les roches, un peu avec du courant, parce que ça nécessite, donc elles vont s'alimenter, donc il faut que le courant va amener la nourriture, donc c'est des zones qu'on va privilégier. Ensuite, pour le lieu, par exemple, il faut privilégier les tombants. Donc un tombant, c'est une pente abrupte de roche, donc qui va descendre, par exemple, de 10 à 20 mètres. Et souvent, c'est sur ces parois que vont se mettre les lieux, notamment dans les laminaires, donc les grandes algues. Et après, pour le bar, c'est plus divers. C'est une espèce qu'on retrouve donc de la surface, donc qui peut être pêchée au bord, sur les plages, jusqu'à des très grandes profondeurs, donc comme les épaves. Mais il affectionne aussi particulièrement les parcs à huîtres, donc c'est un très bon moyen de viser cette espèce.
Donc là, on est en plein hiver. Est-ce que tu peux nous dire les espèces que tu cibles en ce moment ?
Oui, alors en hiver, c'est un peu la saison lente pour la pêche, en tout cas. Donc on va cibler les céphalopodes, donc les sèches et surtout le calamar, donc dans les environnements portuaires, donc comme le port de Brest qui s'y prête très bien. Et aussi, donc moi qui suis normand, on peut aussi faire des belles pêches en surfcasting, donc sur des poissons un peu communs comme la roussette, le taco. Mais aussi, quand il y a des créneaux avec des belles conditions météorologiques, on peut aller chercher les lieux qui se regroupent soit sur les épaves, soit sur les bords de fort courant. Et donc quand la saison se réchauffe un petit peu là, on va pouvoir commencer à toucher du bar, donc dès le mois d'avril, quand l'eau va réchauffer, que le fourrage va arriver au bord, donc les petits poissons comme les sardines. Et ensuite là on va avoir les sparidés qui vont arriver, donc tout ce qui est dorade royale, dorade grise, pagre, qui vont arriver notamment dans la rade de Brest, et donc on va pouvoir cibler de manière récurrente, donc en surfcasting et en pêche en bateau. Et à côté de ça, pour la chasse sous-marine, donc là c'est la saison plutôt de la coquille Saint-Jacques, du homard, et ensuite à l'arrivée des poissons on va plus se focaliser donc sur le bar, le mulet, etc., et aussi sur les araignées de mer qui vont arriver dans pas longtemps d'ailleurs.
Tu es un pêcheur moderne, tu utilises des techniques récentes, mais tu entretiens quand même certaines traditions. On sait par exemple que tu utilises l'ikejime, une technique japonaise ancestrale de mise à mort de l'animal. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu tues le poisson et pourquoi est-ce que tu utilises cette méthode ?
Ouais, donc nous, en pêcheurs de loisirs, notre but, c'est pas de pêcher pour pêcher. On veut quand même, quand on garde un poisson, faire un poisson de la meilleure qualité possible. Et donc, il y a cette technique qui est ancestrale au Japon, mais qui est quand même assez récente en Europe et en France, qui consiste du coup à avoir une mise à mort très spéciale pour conserver au maximum les chairs du poisson, c'est-à-dire qu'on va venir d'abord faire une mort cérébrale du poisson, donc concrètement on va lui faire un trou dans le cerveau, et ensuite on va détruire en fait la moelle épinière qui se situe donc dans la colonne vertébrale avec une tige en inox ou une gaine. Et ensuite, on va saigner le poisson pour vider la chair de son sang et avoir une meilleure conservation, une chair bien blanche. Et ça va permettre du coup aussi de faire maturer le poisson, par exemple une semaine au frigo, et avoir un goût spécial qu'on n'a pas ailleurs, quoi.
Est-ce que tu sais si des pêcheurs professionnels utilisent cette technique en France ? Et puis éventuellement, est-ce qu'il y a des labels qui valorisent ce type de pêche ?
Alors, il y a quelques pêcheurs qui commencent à le faire, donc notamment des ligneurs qui ont, c'est leur intérêt de faire de la qualité. Donc, en faisant cette technique, ils peuvent encore augmenter la valorisation de leurs produits. Et il y en a notamment, donc dans le Finistère, il y a plusieurs qui se mettent à faire ça. Et il n'y a pas de label juridiquement parlant qui sont créés, mais les poissons sont pingés, donc avec des petites étiquettes, et donc valorisés en crié avec un prix qui peut atteindre le double d'un poisson qui n'est pas équigimé, par exemple. Bien que le marché est plus pour les restaurateurs, donc sur des petites quantités de poissons.
Marine sur Radio U.
Aujourd'hui dans Marine, nous sommes en compagnie de Gabriel Bonnefoy, biologiste et étudiant en gestion et protection de l'environnement marin, et pêcheurs passionnés. Ensemble, nous discutons de ces pratiques, des impacts de la pêche professionnelle et des enjeux écologiques qui y sont liés. Pour quelles raisons est-ce que tu as commencé à pêcher ?
Donc, j'ai commencé à pêcher parce que mon père il a un vieux bateau, un vieux gréement de 1913. Et du coup, quand j'étais petit, on allait faire des tours à la voile et on mettait toujours l'été une ligne de traîne pour pêcher les maquereaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup.
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu continues à pratiquer cette activité ? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir que quand tu étais plus jeune ?
Donc oui, donc au fil des rencontres avec des amis et différentes personnes, j'ai pu voir les autres techniques, donc la pêche à la canne, le surfcasting, etc. Et du coup, j'ai pris de plus en plus de plaisir à aller chercher le poisson, à expérimenter les nouvelles techniques, aller, on va dire, un peu toujours plus loin, pêcher plus profond, pêcher des nouvelles espèces. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir et un besoin d'aller à la pêche. Non pas forcément pour aller prendre du poisson, mais déjà aussi pour être au bord de l'eau avec les amis et profiter de ces moments.
Est-ce que tu penses que tes méthodes de pêche permettent à la fois de te nourrir, mais aussi de respecter les animaux ?
Alors oui, donc elles permettent de se nourrir parce que déjà on va attraper des poissons donc qui sont de bonne qualité, et on sélectionne surtout les poissons qu'on prend. Donc quand on connaît un petit peu la pêche... on sait quelles zones sont propices à telles espèces, et donc prendre les poissons en fonction de nos besoins. Et donc de par la sélection qu'on opère, donc que ce soit à la pêche à la ligne, donc en relâchant les espèces trop petites, en conservant que certains individus, ou donc en chasse sous-marine, en sélectionnant au moment de la capture que les beaux individus et les espèces qu'on cible, on peut se nourrir durablement, donc avec des bons poissons et toute l'année en plus.
Et donc, en quoi est-ce que tes méthodes sont différentes de celles de la pêche professionnelle, et en particulier de la pêche industrielle ? Est-ce que, justement, c'est cette notion de sélectivité ?
Oui, donc c'est principalement ça le problème. Donc, il existe bien évidemment la pêche professionnelle à la ligne, mais il faut répondre à une demande qui est très forte, notamment, par exemple, pour les grandes surfaces. Et donc, les engins de pêche utilisés, donc bien souvent les chaluts, sont... aujourd'hui pas assez sélectifs dans leur prise, donc il y a beaucoup de prises accessoires, bon, bien qu'il y ait une amélioration et des nombreuses études qui sont mises à disposition, et surtout c'est les volumes pêchés et la qualité des poissons qui en ressort qui est différente aussi.
Donc aujourd'hui, selon la FAO, il y a à peu près un tiers des stocks de poissons mondiaux qui sont surexploités, c'est trois fois plus qu'en 1975. Selon toi, qu'est-ce que c'est qu'une pêche responsable ?
Alors une pêche responsable, ça va dépendre de la personne à laquelle on pose la question. Ça peut être pour certaines personnes juste une pêche à la ligne, donc que ce soit professionnel ou amateur. Et d'autres qui sont plus conscients quand même des enjeux autour de la pêche, ça va être une pêche par exemple qui exploite essentiellement les stocks qui se portent bien. Et une pêche qui va donc respecter les quotas européens et les espèces de saison.
Et quelles sont pour toi aujourd'hui les principales problématiques liées à la pêche industrielle ?
La problématique, c'est un peu la demande aussi qui est très forte. Donc on sait qu'au niveau mondial, on est à 50% donc du poisson qui est mangé qui vient de la pêche et 50% qui vient de l'aquaculture. Donc aujourd'hui, on est au maximum de la pêche, on ne peut pas pêcher plus. Et pourtant, il y a toujours des plus gros bateaux qui sortent, donc... comme l'exemple des bateaux-usines qui ont été mis à l'eau récemment vers Concarneau pour aller pêcher les poissons pélagiques. Et donc cette pêche industrielle, qui a pour but quand même de toujours pêcher plus, elle est en désaccord avec le fait déjà que les ressources ne sont pas inépuisables et sont de moins en moins abondantes, et surtout que la demande ne peut pas être assurée que par la pêche, et donc l'aquaculture doit à l'avenir aussi prendre une part importante de la production pour les poissons.
Et pour quelqu'un qui ne pêche pas, comment consommer du poisson de manière responsable ?
Déjà, il existe plusieurs labels sur les étals de poissonniers, par exemple. Donc soit par exemple MSC, donc qui sont des poissons dont les navires ont une charte bien précise. Et de plus, on peut aussi se renseigner sur quelles espèces sont présentes. Donc, par exemple, si on habite dans le sud, on va pas manger les mêmes espèces de poissons que quelqu'un qui habite dans le nord de la France. Et essayer de manger des poissons donc de saison et des poissons dont le stock est en bon état. Donc viser des espèces qui sont pas forcément celles auxquelles on pense, donc pas forcément par exemple manger du bar tout le temps, mais viser d'autres espèces comme les tacos et d'autres poissons qui sont moins exploités et qui sont un stock qui se porte très bien et qui sont très bons.
Dans le monde, en 1950, on produisait environ 20 millions de tonnes de produits de la mer. On en produit aujourd'hui environ 160 millions. La part de l'aquaculture dans la production de poissons augmente sans cesse. Est-ce que c'est important pour toi de continuer à manger du poisson sauvage ?
Déjà, pour moi, personnellement, oui, parce que je pêche de loisir et que j'aime manger le poisson que je pêche. Mais pour d'autres personnes donc, qui iraient plus en poissonnerie, c'est aussi important simplement pour la filière... de la pêche professionnelle qui fait vivre quand même beaucoup de gens en France, donc c'est important. Et aussi ce qui est important, c'est qu'on a vu que les poissons qui étaient donc mieux valorisés, donc si le poisson est mieux valorisé, on peut diminuer l'effort de pêche, donc les pêcheurs en gros peuvent pêcher moins de poissons et être payés en gros toujours autant. Et donc c'est pour ça que c'est important, donc c'est de continuer à manger du poisson sauvage et essayer de manger le poisson sauvage du coup qui est sur les filières durables et qui fait vivre donc plutôt les petits artisans, on va dire. Mais bien sûr il faut aussi penser à manger du poisson d'aquaculture et dans ce cas manger du poisson d'aquaculture durable, donc bio ou des fermes de petite densité ou ce genre de choses.
Donc comme tu l'as dit Gabriel, la pêche professionnelle reste essentielle pour faire vivre les territoires littoraux, la pêche vivrière mais aussi pour l'économie de ces régions. Selon toi, que peuvent faire les pêcheurs professionnels pour maintenir leur activité tout en limitant leur impact sur le milieu marin ?
Déjà, pour maintenir leur activité, il faut que les pêcheurs professionnels, et c'est ce que beaucoup font, c'est visent des stocks du coup, qui sont en bonne santé, qui sont durables, avec des espèces qui sont à forte valeur commerciale aussi, parce que la quantité ne résout pas le problème. Ce qu'il faut viser, je pense, c'est la qualité, c'est donc pêcher moins mais pêcher mieux en fait, c'est pêcher des espèces par exemple comme le pagre qui sont une espèce on va dire un petit peu nouvelle, inconnue mais qui pourtant a une très bonne qualité gustative et dont le stock pour l'instant se porte bien et la technique de pêche associée donc qui est à la ligne principalement est très adaptée au futur de la pêche. Mais bien sûr il faut nuancer le propos, donc il faut quand même réussir à contenter tout le monde. Et donc les bateaux plus gros sont nécessaires, mais là encore un travail doit être fait, notamment sur les engins de pêche, pour être le plus sélectif possible et viser pareil les bons stocks à la bonne période, notamment sur le bar, à éviter de pêcher sur les zones de reproduction et ça pour toutes les espèces.
La rade de Brest est une zone géographique qui est particulièrement réputée pour la coquille Saint-Jacques. Et on sait que tu as eu l'occasion au cours de tes études de travailler sur l'évolution de la pêche à la coquille Saint-Jacques. Est-ce que tu sais dans quel état se trouve le stock aujourd'hui en rade de Brest et éventuellement s'il y a des quotas qui s'appliquent aux pêcheurs amateurs et professionnels ?
Alors le stock en rade de Brest, il est essentiellement originaire de l'écloserie du Tinduf qui a été créée dans les années 1970 suite à une grosse tempête de froid et de vent qui a décimé la population de coquille Saint-Jacques et aussi la surpêche. Et du coup le stock il se porte moyennement bien parce que donc tous les ans il faut réensemencer pour que les pêcheurs pros puissent vivre, et c'est d'ailleurs les pêcheurs pros qui subventionnent cette écloserie. Et donc au niveau des quotas, déjà pour les professionnels, donc il y a 33 licences cette année, donc 33 bateaux qui pêchent la coquille Saint-Jacques, et ils ont des horaires à respecter, donc c'est environ des créneaux de 2 heures, de 9h à 11h, et c'est 3 jours par semaine environ, et ça peut varier suivant par exemple les efflorescences de micro-algues qui peuvent rendre les coquillages impropres à la consommation. Et pour les plaisanciers, les horaires sont les mêmes. Et donc en chasse sous-marine, on a des quotas qui sont de, de 15 par personne et par jour, donc à récolter en apnée. Et en pêche à pied, c'est la même chose. Il y a des quotas de 15, mais c'est seulement du coup pendant les grandes marées, donc c'est beaucoup plus rare d'en attraper comme ça.
Et de manière plus globale, quelles sont selon toi les problématiques actuelles et à venir pour les espaces marins et littoraux? Et comment est-ce qu'il serait possible éventuellement de réagir face à ces problématiques?
Déjà, si on peut prendre le cas de la coquille Saint-Jacques, il y a deux enjeux majeurs. C'est la restauration donc, d'un bon état de pollution de l'eau. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de bassins versants avec des activités, qu'elles soient industrielles ou agricoles, qui vont venir salir la masse d'eau avec des afflux de nitrates assez importants et donc le développement d'algues toxiques pour les coquilles Saint-Jacques et aussi l'être humain. Et il y a aussi le milieu qui est impacté. Donc la pêche, elle est souvent avec des engins assez lourds. Donc par exemple, pour la coquille Saint-Jacques, on a des dragues qui vont venir remuer le sédiment qui est composé donc, de merles. Donc c'est une algue rouge qui fait des petites concrétions calcaires. Et quand on voit ça sous-marine, on a des traces, on voit les traces des dragues sur le merle. Et il faut savoir du coup, comme ça a été dit plus tôt, que les espèces donc, commerciales, elles sont inféodées au substrat et au milieu. Et donc si on détruit le milieu, et ben on va indirectement détruire les espèces qui ne trouveront plus les zones propices à leur développement, donc que ce soit là pour les stades larvaires et adultes. Donc je pense que le gros travail, c'est d'arriver de restaurer les milieux qui sont impactés. Donc là, on voit par les dragues, donc bien sûr c'est difficile, mais il faudrait passer à une pêche plus en plongée bouteille professionnelle. Et aussi, il y a beaucoup d'infrastructures portuaires donc, qui détruisent le milieu. Et en plus de ça, on a des clapages, par exemple, de sédiments donc plutôt fluviaux ou portuaires qui sont relâchés au large, qui posent des problèmes. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, quoi, restaurer l'environnement marin.
Quel conseil donnerais-tu à des novices qui voudraient se mettre à la pêche ?
Alors tout d'abord, il faut aller à la pêche, il faut insister. Souvent, quand on commence, on ne sait pas, on ne prend pas de poisson, mais il faut y aller, il faut essayer de comprendre pourquoi on ne prend pas de poisson. Et il faut aussi s'entourer donc de personnes, que ce soit comme aller chez son détaillant de pêche, pour avoir des conseils sur les différents leurres, les différents spots, et aussi discuter avec les gens, faire des rencontres, et comme ça va amener les novices donc à progresser. Et il y a aussi par exemple pour le surfcasting des clubs qui existent avec des sorties qui sont organisées, des cours pour les montages, etc. Et donc moi je sais que ça m'a servi, par exemple j'étais un peu on va dire entraîné par l'entraîneur de l'équipe de France, donc ça m'a beaucoup aidé et permis après de prendre plus de poissons que ce que je faisais. Et pour la chasse sous-marine, quand on débute, c'est essentiel de se diriger vers un club d'apnée pour déjà voir ses limites, parce que il y a beaucoup d'accidents de chasse sous-marine et beaucoup avec des jeunes qui débutent et du coup qui ne savent pas leurs limites. Et du coup ces cours permettent de comprendre son corps et aussi de rencontrer des gens qui en général sont très ouverts pour apprendre aux jeunes la chasse sous-marine.
Tu nous as dit que tu habitais actuellement à Brest pour tes études, mais que tu étais originaire de la campagne normande. Si tu avais à choisir plus tard entre ces deux régions, où est-ce que tu déciderais de t'installer et pourquoi ?
Bah, entre les deux, mon cœur balance, hein, parce que d'un côté, on a la Bretagne donc, que j'ai découvert récemment, mais qui est quand même un très bon endroit pour la pêche et aussi pour mon avenir professionnel. Et de l'autre côté, bah, y a la Normandie, là où je pêche depuis toujours, où je connais par cœur et dont je suis attaché aussi à la Normandie. Donc s'il n'y avait que moi, je pense que je choisirais la Normandie, parce que c'est vraiment là où j'ai tous mes meilleurs souvenirs de pêche avec mes amis, ou même tout seul en kayak à se lever à des heures pas possibles l'été, le matin, pour essayer d'avoir les premiers bars de nuit. C'est des sensations que... Je ne dis pas que je ne retrouve pas ici, mais c'est trop ancré en moi, la Normandie, quoi.
Gabriel, pour conclure, est-ce que tu peux nous citer une œuvre qui a particulièrement marqué ta vie ?
Oui, alors je ne suis pas un grand lecteur, mais quand j'étais jeune, j'ai lu Le vieil homme et la mer, et cette histoire m'a passionné, Et je pense que c'est une bonne leçon de vie aussi, cette œuvre.
Bah, merci beaucoup, Gabriel, pour le temps que tu nous as accordé.
Merci à vous.
Pour creuser le sujet, nous vous suggérons de lire « Pour une révolution dans la mer, de la surpêche à la résilience » de Didier Gasquel, « Le vieil homme et la mer » d'Ernest Hemingway. Vous pouvez également lire « De la mer à l'assiette, présentation de la filière halieutique dans le monde » écrit par Ivan Bouvet et publié chez Géoconfluence. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio U où sont publiés tous nos épisodes. À la réalisation, Brieux Calonec, Jody Kimberley-Grolier et Manuel Sahuquet. À bientôt.